Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
C'est mercredi, c'est Héroldi, mon ami et chroniqueur invité à l'émission. Jean Héroldi est là. Bonjour Jean.
Comment vas-tu?
Écoute, moi je vais super bien. Écoute, c'est assez rock'n'roll le monde de la mode. Il y a l'ancienne mannequin Eve Salvaille qui sort un livre ces jours-ci où elle parle du monde de la mode. C'est assez, assez particulier.
Oui, j'ai hâte de lire ça parce que, comme on sait, elle a été connue. Moi, je me rappelle dans le temps qu'on faisait la découverte de mannequins au magazine Clin d'œil. C'est comme ça qu'elle a été connue. Eve Salvaille, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est qui, c'est la femme qui a le crâne rasé avec un tatou. À cette époque-là, c'était assez
spectaculaire.
Drastique. Comme look. Puis ça a fonctionné parce que ça a été remarqué par un des plus grands designers au monde, Jean-Paul Gaultier. Et sa carrière, par la suite, est partie de valise en valise, de ville en ville. T'sais, j'ai lu un petit peu, j'ai hâte de lire le livre au complet, mais elle explique comment elle avait un appartement à une place, un appartement à l'autre, qu'elle avait hâte de revenir, rester quelques jours à la même place. On pense que cette vie de jet set-là, c'est tout le temps magnifique, mais quand on se rend compte qu'on n'a pas de d'endroit fixe et qu'on est souvent, on a l'offre de party, décide de ça, ben tu sais, elle parle justement dans ce livre-là de son alcoolisme, son addiction à l'alcool, son homosexualité, tout comment ça s'est passé. J'ai bien hâte de découvrir là, comment ça s'est passé vraiment, cette magnifique carrière-là. D'ailleurs, elle est encore très belle à l'âge que là.
Oui!
Elle est encore mannequin, mais maintenant, elle est rendue DJ.
Oui, c'est ça, mais c'est intéressant aussi de voir que ce qui était son signe distinctif, qu'elle l'ait gardé, tu sais, elle aurait pu avec les années laisser pousser ses cheveux, puis on la reconnaîtrait peut-être pas dans la rue. Alors c'est vraiment assez fascinant, je trouve, de voir que toutes ces années plus tard, elle a gardé ce signe distinctif. Et justement, en parlant de signe distinctif, c'est assez particulier quand même de penser que il y a plein de gens qui parlent du milieu de la mode en disant « Ah, ben les filles sont toutes pareilles, elles se ressemblent toutes ». J'ai toujours trouvé ça niaiseux, les gens qui disaient ça, parce que je regarde dans le domaine de la mode, au contraire, c'est des personnes aussi différentes qu'une Claudia Schiffer, une Naomi Campbell, je pense aussi à la mannequin... Linda Evangelista, puis t'as celle qui a son gros point de beauté, là, Cindy Crawford. Et Cindy Crawford, elle s'était fait dire toute sa jeunesse, il faudrait que t'enlèves ton point de beauté, tu t'arriveras jamais à réussir dans le domaine du mannequinat. Ben écoute, la raison pour laquelle, entre autres, elle a réussi, c'est sa signature. Je trouve qu'au contraire, le monde de la mode, en donnant la place à des gens comme ça, c'est justement de dire sois différente, sois distinctive, parce que c'est ça qui fait ton charme.
Mais à cette époque-là, Sophie, c'était beaucoup comme ça. Puis il y avait vraiment des grosses différences entre les mannequins. Elles étaient toutes aussi belles les unes que les autres. Aujourd'hui, en 2020, quand on regarde les passerelles, les runways, effectivement, on dirait que les filles se ressemblent beaucoup plus.
Ah oui, tu trouves qu'il y a ce changement-là?
Ils ont moins cette identité-là, ou peut-être qu'on les connaît moins parce qu'on sait qu'à une époque, les mannequins sont devenus plus populaires que les designers.
Absolument.
Donc, les designers avaient plus le moyen de payer les filles qui avaient rendu populaires. Donc, ces super modèles-là ont pris le bord à un moment donné pour amener de la nouveauté. Et cette nouveauté-là, on ne leur a jamais donné, à part peut-être Gisèle Bündchen, qui est encore là. Il n'y a plus tant de modèles qu'on connaît ou que les gens en général peuvent dire, parce que Cindy Crawford aujourd'hui, les gens, la population peut savoir c'est qui. Tandis que si on nomme des noms des fois plus nouveaux, les gens ne connaissent plus autant les top modèles.
C'est ça, c'est moins des vedettes. Écoute, je me souviens, à cette époque-là, on les appelait des Uber modèles. Et c'était vraiment, les mannequins étaient hyper connus. Puis c'était dans le temps où Uber voulait simplement, c'était juste un mot allemand pour signifier super connu ou super top. C'était pas une marque, une compagnie de taxi à l'époque, Uber.
On se rappelle une vidéo de George Michael avec
toutes ces top
modèles-là. Puis ce que je trouve fun dans tout ça, c'est quand on fait comme Linda Evangelista, c'est pas une fille qui a, tu sais, mettons, là, on pense à la perfection. C'est pas la fille qui a le plus beau nez. C'est pas la fille qui a la plus belle dentition. Mais toutes mises ensemble, c'est une des plus belles filles au monde.
Et tu vois, je regarde du côté français. Moi, à cette même époque-là, il y a une mannequin française que j'adorais. C'était vraiment la l'égérie de Chanel et de Karl Lagerfeld. C'est Inès de la Fressange. Puis écoute, oui. C'est une fille. Elle est comme, bon, évidemment, tu sais, très grande, très, très maigrichonne, un petit côté très garçon. Puis en même temps, c'était une fille hyper souriante à une époque où, justement, les mannequins avaient plutôt toutes des faces de bœuf, là. Et ouais. Je veux dire, elle, ce qui la distinguait, c'est pas tellement qu'elle est super jolie, Inès de la Fressange. Il y en a des plus jolies qu'elle, mais elle avait un charme, elle avait un tchatch, ben, elle avait une pêche.
Le charisme, tu sais, c'est pas toujours. Voilà. Le charisme, c'est pas toujours la beauté. Tu sais, c'est ce que tu dégages. C'est drôle à évaluer, mais tu sais, comme par exemple au Québec, là, mettons Garou.
Ouais.
C'est pour moi Garou, c'est pas le gars qui a un visage parfait. C'est pas Rogozin, là, mettons. Sauf que Garou qui rentre dans une pièce, ben, il y a un charisme énorme qui se dégage. Et je pense que c'est ça la vraie beauté, dans le fond.
Bon, on peut dire la même chose de Jean Héroldi.
Non, bon, on en reparlera une autre semaine.
Oh, pourquoi? T'es déprimé devant ton miroir? Non, non, mais attends, étends-toi qu'on en parle.
Non, j'ai justement une session de photo cet après-midi.
Ah, OK.
Oh my goodness, il va falloir que je travaille fort.
Oh mon Dieu! Est-ce qu'il t'arrive la chose typique qui arrive tout le temps quand on a une séance photo, c'est-à-dire il y a un petit bouton rouge qui t'est poussé sous le bout du nez?
Oh non, même pas. Non, ça va bien aller. Un bon éclairage, je vais voir, on va s'en sortir.
On y verra que du feu. Et puis écoute, il y a toujours la solution de Photoshop sinon. Écoute, on s'inquiète dans toutes les sphères de la société, à savoir quelles seront les conséquences de la pandémie à long terme. On sait qu'évidemment, pour l'instant, beaucoup d'activités économiques sont paralysées, mais on se dit, bon, ben quand la pandémie va être terminée, est-ce que ça va aller mieux? Qu'est-ce que t'en penses dans le domaine de la mode? Qu'est-ce que ça va avoir changé, cette pandémie-là?
Mais je pense que dans la mode, premièrement, ça va faire un énorme nettoyage de marques. Il y a des marques qui vont disparaître et c'est un peu triste parce que ce sont pas toujours les marques qui devraient disparaître qui vont disparaître, mais avec ce coup d'épée-là, c'est ce qui va arriver. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'il va y avoir moins de collections les collections qui sont programmées longtemps d'avance. Mettons de magasiner votre saut de ski au mois de juillet ou au mois de septembre, ça va arriver de moins en moins. On va magasiner en temps réel. Donc, quand on a besoin de quelque chose, je comprends que ceux qui magasinent chez Costco comprennent pas, là, parce que chez Costco, t'achètes tes chaises de patio au mois de décembre, là. Ça, c'est un autre, eux autres, c'est une autre histoire. Mais tout ce qui est mode, ça va être comme ça. Ça va être aussi des plus petites capsules qu'on va faire. Donc, pas des grosses collections. Et les designers, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont tannés, puis je les comprends parce que j'en fais partie, d'avoir la pression de sortir à chaque saison, à une telle date, une collection complète. Les gens vont aller plus vers l'inspiration du moment. Ils vont suivre plus, justement, qu'est-ce qui est en demande. Ils vont aller par plus petits groupes, plus petites quantités et ils vont enlever un peu de stress. Et même, on se demande si les semaines de mode de Paris, de New York, de Milan, s'ils vont avoir raison d'être. Parce que là, on voit qu'il y a des semaines de mode qui n'ont pas existé et les gens ont passé à travers, donc différemment, avec les médias sociaux et tout ça. On peut aller faire ça différemment. Une vidéo, par exemple, dans un champ de blé, dans un champ de blé d'Inde, ça peut être super cute. Et on peut le regarder de notre salon de la même affaire que s'il faut qu'on se déplace à Paris pour aller voir le défilé. Donc ça, on dit que ça va changer aussi énormément. Donc, c'est ça. Il y a plein de choses. Mais les capsules, les petites collections, ça, c'est sûr que dans le futur, on va voir ça de plus en plus. Petite collection éphémère qui va durer le temps de la marchandise qu'on a. On va passer à autre chose, mais on va essayer de pas prévoir trop longtemps d'avance. Et c'est ça ce qui va changer aussi dans le domaine de la mode, si on continue comme ça. J'ai lu sur les réseaux sociaux que maintenant, on vend beaucoup plus de hauts que de bas parce que tout le monde est en Zoom pour le travail.
Oui, ben écoute...
Que tout le monde achète des hauts, achète plus de bas.
Ben non, mais c'est très drôle. D'ailleurs, ben, excuse-moi, mais c'est pas vraiment relié, mais tu sais, il y a un journaliste américain qui a perdu sa job cette semaine parce que non seulement il y avait rien en bas, mais il y avait la bisoune sortie. Fait que, bon.
Ça, c'est pas bon.
Non, et je pense qu'il y avait comme... Il avait comme oublié que finalement il était en Zoom, puis je pense qu'il avait, il pensait pas que sa caméra était allumée. Mais pour revenir à des choses plus sérieuses, je dirais que au-delà de ça, c'est pas juste que les gens vont acheter des hauts et n'achèteront pas de bas, mais avec le télétravail, il y a quand même beaucoup de gens qui, écoute, je suis allée au centre d'achat en fin de semaine. Écoute, c'est plate de dire ça. Mais la moitié des boutiques de vêtements étaient complètement vides. Parce que, tu sais, t'as pas, il y a pas juste le télétravail, c'est que, il y a le télétravail fait que t'as pas besoin de te mettre beau pour aller travailler. Mais tu sais, habituellement, t'achètes des vêtements aussi parce que t'as des sorties, tu vas au théâtre, tu vas au cinéma. Tu vas souper chez des amis, tu fais des fêtes de famille. Sinon, si tu restes chez toi, ben tu sais, c'est soit en pyjama ou en jeans, ben voilà. Alors, tu sais, honnêtement, en ce moment, je trouve que le milieu de la mode, c'est, tu sais, à part, mettons, des choses vraiment basiques, là, mais le milieu de la mode en tant que tel, on est vraiment revenu à une simplicité volontaire.
On va s'en ressentir aussi pendant plusieurs mois parce que beaucoup de magasins ont reçu leurs marchandises, mais les magasins étaient fermés. Donc, ils ont tous pris cette marchandise-là, ils l'ont mis dans le backstore pour l'année prochaine. Donc, on s'entend que ce qui a été produit pour l'année prochaine est déjà produit. On n'aura pas à retravailler. Donc, point de vue travail aussi, ça va manquer. Donc, ça va tout changer là, l'aspect de l'offre aussi en magasin. Et ben c'est partout à travers le monde. Fait que des fois, c'est dans une usine que le coton est plus difficile à avoir. Dans l'autre, c'est des boutons. Dans l'autre, c'est la fermeture éclair. Dans la conception aussi des vêtements, ça va devenir tout un casse-tête, je pense. Et j'espère que les gens vont pouvoir s'en sortir. Je pense aux designers québécois, entre autres, qui déjà, c'est difficile. C'est ceux qui sont encore plus haut de gamme, qui déjà, ils dépendent souvent du mois prochain.
Mais ton Marie-Saint-Pierre?
Genre Marie-Saint-Pierre, Christian Chenay, tu sais, des vêtements qui sont plus luxueux, plus haut de gamme, ben ces gens-là, ça va probablement être plus difficile. Tu sais, quand il n'y a pas de bal, il n'y a pas de robe.
Mais non, c'est ça, j'allais dire, pas de gala. Tu sais, je veux dire, on a vu le gala des Gémeaux, bon, ben, je veux dire, il y avait 5 personnes sur scène, puis c'est tout, là, il n'y avait pas de public, il n'y avait pas de... Alors, c'est quand même un moment, différents galas pendant l'année où on porte des robes, tous les bals, tous les événements de levée de fonds, tous les événements spéciaux, écoute, c'est majeur, là.
Puis en même temps, les gens ont moins d'argent pour s'en acheter, veulent moins investir là-dedans. Donc, ça ne sera pas quelque chose de facile. Peut-être que les compagnies qui sont en location de robes, eux, vont bien faire l'affaire quand ça va repartir. Mais sinon, c'est un désastre, cette histoire-là. Moi, j'ai pas hâte de voir ce qui va se passer plus au mois de février, parce que là, il y a Noël qui va arriver, les gens vont être un petit peu plus à l'aise, puis tout ça, acheter des cadeaux, puis tout ça. Mais quand va arriver le temps de payer les factures en janvier, si ça continue, mais on espère toujours qu'un vaccin sortira et ça sera comme ça. J'ai hâte, moi, de faire un chandail dans ma collection marqué « On a trouvé
». Oh, trouvé, c'est mignon! Oh ben, je vais être ta première cliente. Je vais être ta première cliente, Jean, ça, c'est sûr et certain. Écoute, c'est toujours chouette de te parler. Merci beaucoup, puis on envoie beaucoup d'amour et de sympathie à tous nos amis qui travaillent dans le milieu de la mode.
Beaucoup de courage. Je pense,
tu sais, Denis Gagnon, tous les autres, là.
Oui.
C'est pas facile, c'est un moment très, très, très difficile à passer, mais on vous aime et on vous espère en bonne santé et pour longtemps. Faut pas lâcher.
Allez,
merci beaucoup. Puis dès qu'il sort ton t-shirt, on l'a trouvé. Je vais être ta première cliente. Merci.
Trouvé. Faut attendre de l'avoir trouvé pour ça.
Ben oui, mais là, mais commence quand même à en imprimer une coupe. Peut-être que peut-être que les choses vont arriver parce que t'as commencé à imprimer des t-shirts.
Je mettrai bientôt, puis je pourrais rendre bientôt à un moment donné. C'est bon, j'arrête.
Ah, ok, c'est bien. Bye bye. C'est bien, j'aime ça. Merci Jean-Héroldi. On se retrouve mercredi prochain.